Hommage à Alien. Capitaine, je crois que Ripley a été inséminée par un alien.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Regardez là, ses traits sont tirés, ses veines sortent du cou et elle sue à grosses gouttes. Pas besoin d'être médecin pour le voir, ses nerfs sont à vif.
Peut-être s'agit-il d'un problème plus grave.
Vous voulez dire?
J'ai bien peur que oui. Je crois que Ripley est victime de syndrome prémenstruel.
Non! Oh mon Dieu!
En effet, c'est tout l'équipage qui est en danger.
Mais qu'allons-nous faire?
Eh bien, selon le manuel de bord, page 23, alinéa X12, tout membre d'équipage affecté par le syndrome prémenstruel, aussi nommé SPM, doit être éjecté par le SAS immédiatement.
Il ne faut pas attendre une seconde.
Il est mentionné aussi que tous les équipiers portant la moustache devront être promptement épilés. Non, mais ça alors! Vous aviez raison! Ripley était bien inséminé par un extraterrestre!
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du 18 mai 2009 de votre magazine sur le monde ludique Puissance Maximale. Mon nom est Vincent Langlois et je suis en compagnie de toute l'équipe de Puissance Maximale que je vous présente à l'instant en compagnie de François G. Couillard.
Salut Vincent!
Salut François! Également Guillaume Forand.
Salut tout le monde.
Et Christian Lacroix.
Yeah, bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors aujourd'hui, une émission extrêmement chargée. On va avoir en entrevue Nicolas Joltoc en direct de Montréal. Christian Lacroix est ici également. Christian, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, on va vous parler de jeux vidéo, bien entendu, de nouvelles séries, nouvelles franchises qui s'en viennent.
D'accord. On aura également Mathieu Place qui sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Nous allons aller voir également Chantal Campagnan. En fin de compte, on va l'appeler. Elle est en direct de Montréal pour nous parler du fameux tournoi des Colons de Catane. Qui a gagné le tournoi? C'est ce que nous allons voir dans à peu près une trentaine de minutes. Et Guillaume, de ton côté, tu auras une chronique.
Oui, si bien sûr les gens ici veulent bien l'entendre, je vais parler du film de Star Trek qui est sorti il y a quand même 2 semaines environ. Donc je vais faire ma critique sur ce film que j'ai été voir personnellement.
Bien, c'est certain qu'on va écouter ça avec beaucoup d'attention. Moi je l'ai vu, je pense que Christian l'a vu également, donc on va pouvoir donner nos commentaires sur ce film qui était très attendu pour l'été. Mais on va commencer en musique de ce côté-là, Guillaume.
Oui, donc comme à l'habitude, on va commencer avec une pièce de Musax qui lui-même va introduire sa pièce qui de mieux que pour introduire la musique que la personne qui a travaillé dessus.
Une des caractéristiques de la série Need for Speed est de proposer aux joueurs un large choix de voitures d'exception. Need for Speed Underground ne déroge pas à la règle et donne aux joueurs la possibilité de choisir parmi 20 voitures.
Jaune Jaune aussi écoute Puissance Maximale.
Sur les ondes de CKIA et messieurs ici autour de la table et chers auditeurs, je ne sais pas si vous connaissez le mot Harajuku, qui est un mot japonais. En fin de compte, c'est le nom d'un quartier dans Tokyo où on retrouve des différentes cultures alternatives. Et bon, il y a quand même un genre de mode qui était parti et à laquelle on a donné ce nom-là, avec des gens plutôt excentriques. Et on va parler à Nicolas Joltoc, qui est en direct de Montréal. C'est le directeur artistique du syndicat Chromosome. Alors, bonne fin de journée, M. Joltoc.
Bonjour.
Et vous allez, le 23 mai prochain, faire une soirée, la soirée Kawaii, qui est un peu en lien justement avec Harajuku.
Oui.
Et pouvez-vous nous expliquer un peu ce que sera cette soirée?
C'est un peu une continuité des soirées Harajuku Québec qu'on fait à Québec à la Ninkasi depuis à peu près un an. Je me dis, suite au succès que les soirées ont à Québec et que ça n'a pas été fait encore à Montréal, qu'on devrait peut-être essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner à Montréal dans ce cas-là. Mais par contre, on va avoir du J-pop, du Japanese hardcore et du shit-tune et de la musique électro.
D'accord. Et pour les gens qui ne seraient pas familiers avec les soirées Harajuku de Québec, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites? C'est vraiment de la musique électronique? C'est des soirées musicales?
C'est sûr qu'il y a une grosse part de musicalité dans les soirées, puisqu'on est dans un bar, sauf pour Kawaii, qu'on va être plus dans une salle de spectacle. Mais c'est aussi pour permettre aux gens de se réunir, se rassembler, discuter de leur passion pour le Japon, puis de se permettre de vivre leur excentricité dans leur mode Harajuku.
Et en fin de compte, moi, ça m'intrigue quand même, le Harajuku. Quand je disais que ça vient d'un quartier de Tokyo, on retrouve plusieurs cultures, est-ce que c'est quand même véridique?
Ça fait vrai.
Est-ce que les gens ils ont un trip particulier? Est-ce que les gens, c'est nécessairement des passionnés de la culture japonaise, par exemple, qui assistent à l'événement Kawaii?
C'est sûr que c'est beaucoup des passionnés du Japon, des jeux vidéo, des animés, des mangas, de la mode. Je crois que c'est une jeunesse qui est en train de commencer à sortir de 18-21 ans, qui, eux, ont été beaucoup influencés puis conditionnés, si on veut, par jeux vidéo, animés, culture japonaise, probablement plus que notre génération à nous. Fait que le fait que, finalement, il y a des événements qui puissent réunir tout ça ensemble, ça leur permet de sortir et d'être encore dans leur univers, mais en même temps dans un club qui leur permet plus de sociabiliser, de danser en même temps.
Quand on parle d'excentricité par rapport aux vêtements et ces choses-là, est-ce que vous étiez en train de parler justement de manga, de jeux vidéo, plutôt à la japonaise? J'imagine que les gens s'habillent de façon justement, de la même façon qu'on voit les personnages de ces jeux vidéo-là et ces mangas-là, qui sont un peu justement de façon excentrique?
Oui, le cosplay est une petite partie de la mode Harajuku. Mais la mode Harajuku en tant que telle, si on peut dire qu'il y a une mode, c'est vraiment de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, puis de faire ce qu'on veut. On peut descendre dans une friperie, prendre plusieurs vêtements, se construire un style, ou les faire soi-même à la maison. Fait que c'est pas vraiment limité. En fait, il y a une infinité de possibilités. Mais oui, le cosplay, il y a beaucoup de gens qui s'habillent comme leur personnage préféré d'anime et de manga.
Et là, dis-moi, Nicolas, tu parlais que c'était un événement avec du chiptune, de la musique 8-bit, etc. C'est quoi la différence exactement? Là? C'est quoi du chiptune, premièrement?
Chiptune, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est toute la musique qui est faite avec des jeux vidéo, comme des Nintendo Game Boy, des DS, à partir de la base de la banque musicale qu'il y a dans les jeux en tant que tel, dans les consoles. Ou sinon, je connais Taxi Nouveau, par exemple, qui fait de la musique avec des cartes de Noël, où ce qui passe un genre de laser par-dessus, puis ça émet un son. Fait que je pense à tout ce qui a rapport avec, finalement, du gear, là, du hardware, comme on dit, ça serait chiptune. Puis le 8-bit, c'est plus, finalement, une sonorité jeu vidéo, mais à ce moment-là, la personne peut plus le faire avec des ordinateurs normaux ou des logiciels de création musicale. Là, ça resterait plus 8-bit.
OK. Donc, finalement, l'événement va avoir lieu à Montréal. Peux-tu nous en dire plus un peu sur cet événement-là?
Ça commence à 7h et ça termine à 3h du matin. C'est pour All Age, sauf qu'il y a de l'alcool qui est en vente pour les 18 ans et plus avec la carte qui va être demandée. On commence avec du J-pop, avec Neurovirus, et ça se poursuit avec beaucoup de groupes électro. Et on termine le tout avec Pokai, qui va mettre du Japanese Hardcore. Puis là, la dernière soirée à Harajuku à Québec au mois d'avril, il y en a mis, puis la foule est en folie. Fait que c'est pour ça que j'y ai réservé l'horaire de 2h du matin à 3h du matin pour faire la fermeture, qu'on finisse ça en beauté.
Et d'ailleurs, au sujet de Pocage, je suis allé voir son site internet, il y a moyen de télécharger, je pense, toute la trame sonore de la soirée à la Ninkasi, la soirée à Rajuku qui avait lieu à la Ninkasi.
Oui, effectivement, Pocage a souvent tendance à mettre tous ses mix sur son site internet, comme ça on peut savoir qu'est-ce qu'il fait, puis mieux l'apprécier.
Alors Nicolas Joltoc, merci beaucoup pour votre participation à l'émission, et on vous souhaite la meilleure des chances pour le 23 mai.
Merci beaucoup.
Et on pourra se redonner des nouvelles dans quelques semaines. Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour. C'était Nicolas Joltoc pour les soirées à Rajuku. Je vous rappelle que la soirée Kawaii aura lieu le 23 mai prochain à Montréal, à l'Easter Block. Donc, on va passer en musique tout de suite, Guillaume.
Oui, on va y aller en musique, et après la musique, on pourra indiquer c'était quoi exactement la chanson. François, vous pourrez nous faire l'honneur de l'indiquer.
Ah, c'est la chanson Nerdcore de la semaine.
Effectivement.
Alors, écoutez ça, vous êtes à puissance maximale.
The system somehow just must have missed them, but Doc Ock wasn't fooled for a minute. We get more lies than the Galactic Senate, like them fools with the Autobot logos on. Those the same dudes can't name any Decepticons.
Omegatron, was that Shia LaBeouf?
Oh, what the fuck, no, that's enough. How about the ones that say they play games? You ask for three names, they say the same thing.
Mario, and then there's Pac-Man, and well, Mrs. Pac-Man. Oh, and Rock Band, I played that once. I don't remember though, I was so drunk.
I've heard enough. Add him to the roster, the one on the table that's labeled. He's an imposter. Another lame with no game. Imposter. Another dame with no shame. Imposter. And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter.
Another aim to take fame.
Imposter.
Another fake with no name.
Imposter.
And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter.
What's the deal with the gamer girls lately? And not the real ones, but the ones faking. Taking their clothes off, making the vlog, provocatively posing with a pillow plush mom. Am I really expected to believe that this young lady is the same as me? Listen, was it Miss Stormy? We're not idiots, but we are horny. We understand that you've never seen a Dreamcast, so understand that your smokescreen has seen past. And we can see that our interests ain't the same thing. You're really money hungry, and we like game dance. And that's okay, they're both symbiotic, but to expect acceptance is quite idiotic. Will the real gamer ladies please show up and expose these both sluts and show us she's an imposter.
Another lame with no game.
Imposter.
Another dame with no shame.
Imposter. And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter.
Another aim to take fame.
Imposter.
Another fake with no name.
Imposter.
And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter.
I got an itching suspicion, you trying to sabotage. I wish you quit on your mission and ditch the camouflage. We understand that you just perpetrating a fraud. We see your plans at best fundamentally flawed. I know our culture keeps on expanding, and truthfully our guidelines aren't too demanding. You're acting like a nerd, don't you dare do it wrong. Keep the lead speak at home where the shit belongs. Cause the truth is we really ain't fool. When you lead speak in person, you sound like a tool. And we never say it straight to your face, but the truth is we think that you're just a disgrace. And we're growing very tired of using excuses to account for the fact that you're truly too useless to ever be considered one of our kind. And the next group to join will soon come to find you're an imposter.
Another lame with no game.
Imposter.
Another dame with no shame.
Imposter. And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter.
Another aim to take fame.
Imposter.
Another fake with no name.
Imposter.
And if you feign your campaign, we gon' be your bane.
Cause you're an imposter. 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 Cause you're an imposter. Imposter.
Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal.
Au. Oh. Ble. place à la chronique de Mathieu Place.
Eh oui, mesdames et messieurs, on a Mathieu Place en studio cette semaine. Mathieu Place, qu'on félicite.
Ben oui.
Nouveau papa depuis quelques semaines.
Je me suis reproduit, oui.
Et voilà.
La petite fille qui s'appelle Zoé.
Oh. Alors, meilleure des chances à la famille Place et...
Espérons une nouvelle gameuse parmi nous.
Sûrement, hein, on imagine.
Oui, 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 dès que ça va pouvoir tenir une manette, je vais pouvoir faire une manette.
Elle a des bonnes gènes, en tout cas, pour ça.
Enfin, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau Saint Graal qui a essayé d'être trouvé par...
Le côté de Mathieu, je ne sais pas s'il est en onde, mais je ne l'entends pas dans mes écouteurs.
M'entendons-t'on?
Ah, là, on t'entend.
Oui,
et voilà.
Me voici, OK. M'entendons-t-on? OK. Alors, je reprends. Voici ma chronique d'aujourd'hui. Ça va être à propos des Chuck E. Cheese et des Gameworks. Alors, c'est des chaînes de restaurants qu'il y a aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces chaînes de restaurants-là? C'est qu'ils ont essayé d'intégrer l'arcade à l'expérience de restaurant. Ça, c'est un des grands Saint Graal qui a essayé d'être trouvé par l'industrie du jeu vidéo. Bon, on a essayé dans les jeux vidéo d'attirer les filles à jouer à des jeux vidéo. Je pense que ça a été assez réussi dans certaines expériences dernièrement avec les Sims 1, 2, 3, les Mario aussi qui attirent beaucoup les filles. Mais là, on se demandait si c'était possible de faire des lieux, des arcades où les adultes allaient jouer aux arcades, socialiser, etc. Alors, par exemple, justement, on a fait l'expérience avec les Chuck E. Cheese, mais Chuck E. Cheese, ça a commencé en 1977 et ça a été fondé par Nolan Bushnell. Mais ça s'adressait peut-être un petit peu plus aux familles en général. C'est que Nolan Bushnell, qui était aussi le grand fondateur de Atari, trouvait que c'était difficile d'implanter des arcades ailleurs que dans les salles de bowling et puis les bars, etc. Il voulait que ce soit un peu plus accepté par la population en général et c'est pour ça qu'il a essayé de faire des restaurants Chuck E. Cheese qui viennent du nom de la mascotte qui est en fait une souris et c'était, oui c'est ça, Chuck E. Cheese et alors c'était des restaurants de pizza où on pouvait jouer à des jeux vidéo. Alors, pourquoi des pizzas? Bon, évidemment, les enfants aiment la pizza, mais il y a une autre raison, c'est que la pizza, les gens sont prêts à attendre pour avoir la pizza. Tu sais, quand on s'en va à un fast-food de burger, ben on a notre burger tout de suite. Tandis que la pizza, ben il faut attendre un petit peu. Là. Tu sais, c'est des fois, bon, vous l'avez en forme fast-food, mais si vous allez dans un Pizza Hut, etc., ben on s'assoit puis on attend notre pizza.
Alors, il faut dire aussi que la pizza a une histoire privilégiée avec le domaine du jeu vidéo. Quand on passe, on est Ninja Turtles.
Hein? C'est vrai, c'est vrai. Puis aussi, la création de jeux vidéo a été inspirée, je pense, beaucoup par la pizza. Alors, les longues heures de programmation dans la fin de soirée, je pense qu'elles ont été carburées par la pizza et le café froid. Alors, je pense que c'était un mariage assez gagnant. Alors, pourquoi justement la pizza? Eh bien, c'est qu'on peut attendre. Et puis, pendant qu'on attend notre commande, eh bien, on peut aller jouer à des jeux vidéo. Alors, ça a été un très grand succès. À l'heure d'aujourd'hui, eh bien, vous avez plus de 500 Chuck E. Cheese aux États-Unis. Ça a pas démarqué ici, on n'en a jamais vu, mais c'est une chaîne qui fonctionne très bien aux États-Unis.
C'est vraiment une franchise, là, donc il y a 500 Chuck E. Cheese à travers les États-Unis. Là.
C'est ça, exactement. Le premier a été bâti par Bushnell pendant qu'il était avec Atari, et puis là, par la suite, bon, ben, il a été radié de Atari, et puis il est parti avec les chaînes, et puis là, il en a construit une deuxième qui était aussi gros qu'un Toys R Us avec des trains, tout le kit, là, c'était vraiment une arcade géante, et puis bon, par la suite, eh bien, il y a eu des franchises qui ont été achetées, puis ça a vraiment fonctionné. Alors là, ça a fonctionné avec les jeunes. Est-ce que ça peut fonctionner avec les adultes? Alors justement, c'était Steven Spielberg, rien de moins, qui en 1996, avec les compagnies Sega, DreamWorks et les studios Universal, a essayé de partir une chaîne qui s'appelait GameWorks, qui s'adressait aux adultes. On essayait de faire en sorte que ce soit un Chuck E. Cheese, mais pour les adultes. Alors, au lieu d'avoir de la pizza, etc., eh bien c'était, on offrait de la bonne bouffe, entre guillemets, là, je vous en parlerai plus tard. Ensuite de ça, des cafés Starbucks, de la bière, et puis la bonne musique, et puis on essaie de créer une ambiance plus décontractée de bar où les adultes pourraient jouer à des jeux vidéo et puis socialiser, etc. Bon, le premier a été bâti en 1997 à Seattle, et ça a été une très grande première, parce que là, on se disait, ah, OK, c'est une révolution dans les jeux vidéo. Bill Gates était là, MTV, Will Smith, Gillian Anderson, Time USA Today. C'était, on pensait que ça allait être la grande révolution. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, en 1997, moi, j'avais lu beaucoup d'articles où est-ce que la nouvelle tendance événement, c'était supposément de faire des méga complexes, cinéma, restaurant, arcade, tout le kit, où est-ce que les gens passeraient, tu sais, des journées entières, tu sais, c'était à peu près, il y avait un hôtel en plus où est-ce que tu pouvais dormir, etc. Des espèces de gros casinos,
des temples de la consommation.
C'est ça, des temples de la consommation, mais ça n'a pas très bien fonctionné. En tout cas, à voir ce qui s'est passé avec, avec ce genre de centre-là, vous allez les visiter maintenant. Bon, il y a encore les cinémas, il y a encore une couple de restaurants pour que les gens mangent avant et après, mais that's it, là. Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus. Mais à l'époque, c'était vraiment le futur, c'était ça. Alors, c'est pour ça que tous les médias étaient là. Puis en plus, Steven Spielberg était là. Lui, il manque jamais son coup. Alors, c'est pour ça qu'on pensait que ça allait être le futur. Par contre, en 2004, eh bien, Steven Spielberg a quitté l'entreprise. Et puis, en fait, là, ça vivote à peu près. Bon, je suis allé sur le site de GameWorks. Et puis, bon, je m'attendais vraiment à une espèce de place, un bar où il y aurait des jeux vidéo, etc., une vraie ambiance pour adultes. Et puis, ben, ça ressemble pas à ça, hein. Ça ressemble à vraiment une grosse arcade pour adultes. Les repas qu'ils servent, ben, c'est des burgers encore, des tortillas, de la bouffe de pub, là, tu sais, dans le fond, là. Et puis, bon, les cafés, ben, c'est ordinaire, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont encore manqué leur coup. Et puis, ils ont ramené ça à un public de jeunes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on puisse créer ce genre de lieu-là. Je ne sais pas si c'est on veut ce genre de lieu-là où les adultes pourraient jouer.
Mais c'est ça, mais ça va un peu à l'inverse de ce qu'on voit, la tendance depuis plusieurs années, le cocooning. Hein. Les gens ont chacun leur console chez eux, ils invitent leur bande de chums, ils se mettent la musique, l'ambiance qu'ils veulent. Alors, c'est un peu à contre-courant. Mais ça serait bien, par contre, j'aimerais savoir ça.
Bien. Moi, je me dis peut-être s'il y avait des jeux vidéo exclusifs à un endroit, là, des jeux sociaux où c'est sûr qu'il faut attirer toujours les femmes, hein, dans ces lieux-là. Je me souviens d'une entrevue que j'avais lue sur justement Nolan Bushnell, celui qui a fondé Atari et Chuck E. Cheese. Lui, ce qu'il disait, c'est que il fallait, pour que ces lieux-là fonctionnent, il fallait attirer les femmes de 25 à 30 ans. Ok, c'était vraiment le public. Si tu arrives à attirer ces femmes-là, eh bien, les femmes plus jeunes vont vouloir aller dans ces lieux-là pour avoir l'air de 25-30 ans, et puis les femmes plus vieilles vont vouloir aller dans ces lieux-là pour avoir l'air de 25-30 ans, puis les gars vont aller dans ces lieux-là parce qu'il y a des femmes. Alors, tu sais, si t'arrives,
le cercle était bouclé.
C'est ça, le cercle est bouclé. Alors, si tu arrives à viser ce public-là, eh bien, tu peux attirer tous les autres. Alors, s'il y a des jeux exclusifs, ou est-ce qu'il y a un petit peu de flirt au travers de tout ça, des jeux vidéo de flirt...
Ouais. Ça prendrait des géos là-dedans, là. Tu sais, qui font des...
Pour animer.
Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Je sais pas, tu sais, il faudrait qu'il y ait peut-être une connotation sexuelle aux jeux vidéo, puis que tu puisses entrer en relation avec les autres.
Cruising bar, mais version virtuelle.
C'est ça.
Le bar de Larry, là, les fameux jeux Larry, vous savez qu'il y avait...
Ah ouais,
pourquoi pas avec ça?
Ah oui, ben pourquoi pas, tu sais. Ouais.
Mais en tout cas, il y a sûrement un petit peu de chemin à faire là-dessus. S'il y en a qui ont des idées, vu que ça a tombé, en fin de compte, le fameux Game Work, en tout cas, c'est en train de tomber, peut-être qu'il y a une idée générale qui pourrait même peut-être partir ici à Québec. Et là, je vois plein de yeux qui s'allument. Oh! Quelqu'un a eu une idée et on va faire des millions avec ça. Mais on verra.
Je viens de penser à ça. Ça pourrait être un jeu vidéo où est-ce que les gens entrent vraiment en relation sexuelle dans le jeu vidéo. Ah oui, puis comme ça, il y aurait toute la sexualité sous-jacente à un bar, okay. Ben là, ce serait
virtuel. Mais s'ils veulent passer, puis là, ils se font un clin d'œil, puis ils donnent
ils font un clin d'œil.
Ben ouais, puis les s'en vont, il y a un hôtel à côté.
Ouais, ben.
Ah, mais là, le concept de l'hôtel est enlevé,
légal,
là.
Ouais, c'est ça. Ouais.
En tout cas.
Ben, c'est très bien. Ben, merci beaucoup, Mathieu Place, d'être passé à l'émission.
Plaisir.
Et on va suivre en musique.
Oui, on va y aller avec un vieux classique, L'histoire sans fin, donc j'ai retiré des archives.
Ah, le film de ma vie.
Le chien qui vole.
what she may fade away.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Sur les ondes de CKIA, et nous allons de ce pas rencontrer Fraulein Evil, Chantal Campagnat, en direct de Montréal. Bonjour Chantal.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien ici. J'imagine que c'est la même chose à Montréal après une grosse fin de semaine de tournoi de Colons de Catane.
Ah oui, le tournoi du siècle de Colons de Catane qui s'est tenu à Montréal cette fin de semaine, qui a permis de déterminer le champion qui ira représenter le Québec à la Gen Con au mois d'août. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, notre champion est en fait une championne, oui, car c'est une fille qui a remporté les honneurs et qui ira défendre nos couleurs. Alors, elle s'appelle Caroline Maltais et elle est avec nous présentement.
Alors, on va bien sûr lui parler. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Alors Caroline, bienvenue à Puissance Maximale et félicitations pour cette victoire au tournoi.
Merci, merci.
Et pour avoir remporté ce titre, vous avez dû passer combien de rondes?
Combien de rondes? Donc une ronde de 4 parties plus la finale.
La finale, donc 5 parties. Et quand même, vous êtes une joueuse assidue de ce jeu-là?
Non, pas, je suis une novice fraîchement arrivée.
Une novice fraîchement arrivée qui remporte le tournoi de Colons de Catane.
La chance du débutant, bravo.
Ouais. Bon, je joue bien. J'ai eu ma part de chance et d'opportuniste et ça m'a bien servi.
Moi, en fin de compte, au niveau du jeu, je ne suis pas vraiment un type Colons de Catane. Bon, j'ai joué quelques fois. Bon, principe d'échange de ressources, production, commerce, construction, ça va. Qu'est-ce qui fait qu'une joueuse novice s'intéresse à ce type de jeu-là?
J'imagine que c'est parce que c'est un jeu rassembleur. C'est un jeu facile à comprendre. Tout le monde peut y jouer. Là, après ça, bon, on s'y intéresse pour parce qu'il y a des subtilités à aller chercher. Donc là, il y a la stratégie qui embarque. Il y a le momentum de prendre la divise avec les gains et les pertes.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment, justement, dans le tournoi où vous êtes dit, je pense que je passe complètement à côté, c'est certain que j'arriverai pas à la fin?
En fait, c'est surtout à la fin que je me suis dit que ça passerait moins bien. Finalement, ben, l'avant a tourné, j'ai fait des bons choix, puis l'idée était en ma faveur, puis ça a bien fonctionné.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de hasard dans ce jeu-là au niveau, il y a les dés qu'on tire à quelque part, puis que les gens se disent, bon, OK, c'est peut-être une partie négative du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline?
Ben, moi, ça m'a bien servi, mais c'est vrai que ça peut être une lame à double tranchant. Donc, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal longtemps.
Donc, vous allez représenter le Québec et le Canada à la Gen Con, qui sera à Indianapolis, c'est bien ça?
Bien ça.
Bon, on va vous souhaiter la meilleure des chances lors de ce tournoi-là et félicitations encore une fois pour cet exploit.
Merci.
Est-ce qu'on retourne avec Chantal qui a quelques nouvelles à nous donner également?
Oui, bien sûr, je suis toujours là.
Alors, est-ce qu'il y a des choses de nouveau du côté du monde des jeux?
Oui, on a reçu cette semaine Snowtail, une production de Asmodée. Alors, Snowtail avait déjà fait un tabac à Essen l'an passé, n'était toujours pas disponible en français. Il vient de faire son arrivée sur le marché cette semaine. Il est encore tout frais et tout froid, en fait, car Snowtail est un jeu de course de chiens dans l'Arctique avec mécanique de cartes qui rappelle un peu AV César, mais avec un petit peu plus de complexité, car on peut, en faisant des combinaisons de cartes, arriver à faire glisser notre traîneau pour entrer en collision avec d'autres traîneaux, pour les sortir de la piste et tout ça. Évidemment, c'est une piste qu'on peut faire de plusieurs façons, donc ça nous permet de garder un peu de fraîcheur dans le jeu et de ne pas s'ennuyer.
Et est-ce qu'il y a d'autres titres où c'est terminé?
Deuxième grosse nouveauté qui était extrêmement attendue, Small World de Days of Wonder. Donc, Small World, car le monde est trop petit, est essentiellement une réimpression de Vinci, qui avait déjà été assez populaire lorsqu'il était sorti, il y a de cela presque 10 ans. C'est une réimpression à la sauce Days of Wonder. On retrouve maintenant des races de tritons, d'amazones, de zombies et d'humains, de trolls, etc. Donc, un Vinci à la sauce fantastique, essentiellement avec les mêmes mécaniques, donc qui vaut toujours le coup d'être revisité.
Et hey, t'as fait écarquiller des yeux justement en nommant ce jeu-là. Vraiment, il y a des gens, je pense, qui vont passer bientôt pour aller se l'acheter.
Oui, tout à fait.
Oui, Days of Wonder est déjà épuisé du côté anglophone. Si les gens désirent se procurer une copie, je leur suggère de peut-être se dépêcher un petit peu.
D'accord, j'ai compris le message.
Et voilà, alors, est-ce que ça conclut? Oui.
Oui, bien sûr. En fait, j'allais parler d'une troisième nouveauté, Finca, un jeu de Wolfgang Sansker et Ralph Zurlinde, qui est édité par Philosophia, qui vient tout juste d'arriver sur le marché. Donc, dans Finca, les joueurs vont produire des fruits qu'ils vont ensuite aller vendre sur les différents marchés qui sont dans l'île. Donc, un autre jeu où on fait pousser des trucs, un peu comme Agricola, sauf qu'à chacun des tours, les joueurs doivent choisir entre vendre ou produire, et selon le tour, ce sera un fruit qui sera privilégié. Donc, les choix seront déchirants et difficiles. Finca, disponible dès maintenant.
Excellent. Eh bien, ça fait le tour, j'imagine, Chantal?
Ça fait le tour pour cette semaine.
Parfait. On te remercie beaucoup et on se rappelle dans les prochaines semaines.
D'accord. Bye-bye.
Bonne fin de journée. Alors, c'était le tour du côté du niveau du jeu de plateau avec Chantal Capagna. Et on a parlé également à Caroline Maltais, la championne du jeu Colon de Catane. Et oui, je vais finir par le dire. Qui ira nous représenter?
Mais c'est pas une colonne, faut le dire.
Non. Il n'y a aucun lien directement avec les noms et ce qu'on vient de dire. Mais bon, c'était tout simplement que je me suis mal exprimé. Et on va continuer en musique avec Guillaume.
Oui, donc un autre classique de notre jeunesse, du moins ceux-là qui sont rendus dans la trentaine. Un petit peu plus vieux quand même, mais un film de mon adolescence. Je vais vous laisser deviner après l'introduction de la chanson elle-même.
Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. All your bays are below.
Puissance maximale avec Christian Lacroix et un intro qu'on avait entendu il y a quelques semaines de ça.
Oui, oui, ça remonte à un bon bout de temps. Donc, bonjour tout le monde, content d'être de retour parmi vous. Alors, je vais vous parler de jeux vidéo cette semaine, donc avec des nouvelles franchises, parce qu'on sait que il y a énormément de franchises qui reviennent. Hein. La franchise, c'est la notion de partir un nom, et une fois que le nom est connu, ben là, on exploite et on sort un 2, un 3, un 4.
Puis on renouvelle pas souvent le concept. C'est très rare. Il y a parfois, oui, que le concept est renouvelé, mais souvent, on reste dans les mêmes choses.
Et donc, c'est facile pour les développeurs. On a souvent à remettre à jour le moteur un peu, le graphisme. On rajoute deux ou trois armes dans le cas des shooters où, on refait les tableaux et puis ça y est. Il y a le pire exemple, je pense, c'est le pire exemple, façon de parler, mais c'est les sports. Hein? Donc, NHL 2008, tout ça. Des fois, on a l'impression que le chiffre, c'est le nombre qu'il y a eu, là, mais c'est l'année donc de sortie. Mais c'est carrément Madden Football. Là c'est la fin, je pense, de Madden. Là. Madden s'est retiré, ça a l'air du compte. Quand il y en a plus de Madden, ça, okay. Pour les fans de football, c'est triste. Mais enfin, bref. Donc, et surtout dans des crises économiques comme on connaît actuellement, depuis quelques mois, là c'est confirmé, les ventes sont en perte de vitesse, OK, dans le monde du jeu vidéo, il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est encore plus le réflexe à ce moment-là de garder...
De faire des franchises.
Oui, c'est ça. Puis d'éviter de lancer des nouvelles franchises.
Okay. Allez, puis qu'est-ce que les gens connaissent, dans le fond?
Oui, c'est ça. Plutôt que d'essayer avec de risquer dans l'inconnu.
Ouais, des valeurs sûres, là.
Oui. Alors, moi, je vais vous présenter rapidement trois titres qui s'en viennent, qui sont des nouvelles franchises originales. Par contre, vous allez voir, c'est des valeurs sûres à leur façon aussi. Les deux premiers qui sortent cet été, donc, il y en a une exclusivité PS3, qui s'appelle, n'est-ce pas, Infamous. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Moi, j'ai entendu parler, bien sûr. J'ai même vu le quelques previews et ça va être tout un jeu.
Ça promet. Puis là, on est encore dans la vague des super-héros. Alors, comme quand je disais, là, c'est un risque relatif parce que... Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on n'est pas avec Batman, Wolverine, tout ça, souvent, ils sont des jeux médiocres, mais apparemment, je pense que le nouveau Batman, Dark Asylum, parenthèse, a l'air vraiment intéressant. En tout cas, c'est à suivre. Wolverine, apparemment, aussi, est assez bien. Enfin, mais j'ai déjà pas joué, on va attendre. Mais, donc, Infamous, ce qui est bien, c'est que c'est un gars ordinaire. Tu sais, c'est un, comme on dit en anglais, un average Joe, là. Donc, il est habillé un peu, là, en street, des vêtements de rue, puis il se promène. Et, donc, il a des pouvoir électrique, entre autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté moral dans tout ça, c'est qu'il peut utiliser son pouvoir de façon vraiment sauvage et très puissante. Là, ça devient comme rouge, ces éclairs. Et il contrôle beaucoup moins. Ou, il peut y aller plus précisément. Là, ça devient bleu. Et souvent, c'est pour faire des choses... comme par exemple, s'il détruit un poste de police, il peut le faire. Sur le coup, ça y tente. Boum! Mais plus tard dans le jeu, il revient dans le quartier. Puis là, il y a vraiment un gros boss et il n'y aura pas l'aide des... Voilà. Alors que s'il avait fait attention, ben là, les polices sortent et puis aident. Oui. Alors, vous voyez, donc, il y a des impacts. Alors,
c'est non linéaire, comme jeu aussi.
C'est non linéaire, c'est ça. Il va y avoir des quartiers. Et dépendamment du quartier où tu te tiens, il y a des quartiers plus sombres. Alors là, évidemment, tu vas avoir tendance à devenir plus sombre. Donc, c'est un peu à la Fable et d'autres jeux comme ça avec un volet. C'est pas nouveau, mais je pense que ça va être très intéressant.
Ben justement, l'idée est nouvelle dans un sens. On a vu rarement ça. Justement, un average Joe, comme tu disais, en très bon anglais,
ouais.
Qui sort de l'ordinaire, qui s'en va faire des petites missions comme ça.
Oui.
C'est bien.
C'est bien parce qu'on peut se reconnaître là-dedans. Plutôt
dans ce personnage-là.
Oui, alors que Batman, bon, c'est Batman. J'ai de la misère à me sentir comme Batman.
Moi, j'ai bien hâte de voir, en tout cas, ce qui m'intéresse toujours de savoir, c'est la durée du jeu. Ouais. C'est de savoir vraiment ce que le jeu. Parce que souvent, les nouvelles franchises qu'on voit, c'est bon, du 6, 7, 8 heures présentement. Là, quand ça atteint le 10 heures, là, c'est un gros max. Là, puis,
oui, c'est pour ça que maintenant, j'attends toujours de voir les critiques et puis d'y aller pour une location.
Justement, la longueur d'un jeu, même si c'est pas linéaire, exemple comme Fable, en dedans de 15 heures, on le passe. Puis
même avant ça.
Puis encore là, on a étiré, on a cherché des affaires. C'est bien beau, mais à un moment donné, c'est pas intéressant de tout le temps refaire le jeu non plus. Oui, ils disent ah, plusieurs possibilités, on peut rejouer.
Oui, c'est ça.
Mais éventuellement, on se lasse un peu, on se tanne.
Oui, puis souvent, l'argument qu'ils nous disent, c'est surtout avec un jeu comme ça, moral, ben, si vous avez joué le côté bon, ben, jouez le côté mauvais. Mais moi, souvent, on va pour l'un ou pour l'autre. T'sais. Souvent, c'est les gens vont se défouler en jouant toujours des bad guys ou c'est le contraire. Moi, je suis plus tendance à jouer le héros parce que, bon, que voulez-vous. Fait que j'ai la misère à jouer en mauvais garçon. Mais bon. Donc, j'accélère, je passe au deuxième qui sort aussi cet été. Lui, il est multiplateforme, contrairement à l'autre, à Infamous qui est PS3 pour l'instant, exclusivité. Donc, je parle de prototype. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler un peu, pas vraiment. C'est un autre jeu de même type. Le gars, donc, comme par hasard, c'est un autre gars ordinaire, entre guillemets. Son pouvoir, c'est qu'il peut prendre n'importe quel. Il peut changer de forme selon, je pense, mettons, il touche à du métal. Ben, là, il peut faire des gros bras en métal, en asphalte, en n'importe quoi.
C'est encore un jeu de super-héros.
Là, oui, super-héros. Il y a des super-pouvoirs, vraiment. Et puis, ça promet. Vous allez voir des films, là, c'est vraiment spectaculaire. Là. Il se met dans le milieu de la rue, là, puis il y a plein de flics qui tirent dessus. Puis, ces gars, ils n'ont aucune chance. Ils te les ramassent. Fait que, bon, ça promet, je pense, ça va être vraiment défoulant comme jeu. Moi, j'aime bien ça.
Ouais, encore on voit que les policiers ne sont pas les amis des joueurs dans les jeux vidéo.
C'est vrai, hein? Le grand photo, c'est ça, souvent. Mais j'imagine que c'est un incompris. Hein? C'est une méprise, tout ça. C'est un bon gars, dans le fond, je suis sûr. En tout cas, on va voir ça dans... Et pour finir, plus tard, en octobre, okay, un super jeu que j'attends avec impatience s'appelle Brutal Legend. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui. C'est un jeu...
C'est le roi du métal ou un truc comme ça.
Exactement. Donc, c'est avec Joe Black, qui est l'acteur là, très connu, qui est aussi chanteur de Tenacious D.
Jack Black, oui.
Jack Black, excuse-moi, oui. Je mélange tout le temps. Jack Black, oui, merci. Et c'est lui qui joue le personnage principal. C'est un roadie à l'origine. Donc, c'est les gars, là, qui les techniciens, dans le fond, là, puis qui traînent le stock là, dans les shows. Mais là, il a la mission de sauver l'univers. Là, il s'en, il s'en va en enfer. Et là, ils ont pris tous les
clichés.
L'archétype, là, ouais, vraiment, là, comme le gros monstre là, qu'on voit partout là, dans. Voyons, pas ici, mais.
Pour Iron Maiden.
Ouais, Iron Maiden, voilà. Bon, il y a ça. Il y a plein de boss comme ça. Et évidemment, à la fin, il y a un trône. Et quand il bat le jeu avec, c'est évidemment sa guitare magique. Il peut faire des attaques avec ça. Et lui, il dirige des armées. Entre autres, t'as l'infanterie, c'est les headbangers. C'est ceux qui. Ah, ils ont un gros coup avec un gros front de bœuf. Et puis là, ils font juste. Ils foncent dans le top et ils donnent des coups de tête. Alors, ça promet. Et il y a aussi des groupies, là, super sexy, là, qui évidemment, donnent des coups de talon haut, je sais pas trop. Alors, ça promet, je pense, ça va être vraiment. Et c'est très comment on dit, très cheesy là, très évidemment comique, on rit de c'est une et mais ce qui est bien c'est fait par Tim Schafer, je sais pas si vous le connaissez, c'est un designer excellent qui a fait des jeux là hyper connus, Psychonauts entre autres, Full Throttle, Full Throttle là, allez jouer à ça, c'est un jeu d'aventure, c'est vraiment merveilleux pour ceux qui l'ont joué. Alors c'est attendu beaucoup Brutal Legend, et il va avoir aussi des apparitions, je pense Lita Ford va apparaître, il y a tous des vieux comme ça là, des gens là qu'on va retrouver dans le jeu, soit on va les entendre ou carrément on va les voir. Okay.
Donc des gens populaires dans le milieu du rock.
Oui, c'est ça, des archétypes là, du métal là, qui vont être là. Il y en a qui restent à dévoiler, là, mais ça s'en vient. Allez voir ça, ça vaut la peine. En octobre.
Excellent. Bien, merci beaucoup, Christian. Ça a été vraiment intéressant et ce sera des jeux qu'on va sûrement suivre de près et peut-être même cet été, peut-être en faire quelques critiques ou en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Et Guillaume, en musique.
Oui, on va y aller en musique, encore là avec une vieille chanson que plusieurs personnes vont pas reconnaître. Je vais vous laisser deviner c'est quoi dans quelques instants.
Vous êtes à puissance maximale.
vraiment heureux.
Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Et vous êtes de retour, justement, comme le dit si bien Normand Lamour à Puissance Maximale. Et nous allons parler de Star Trek et c'est avec Guillaume Forain que nous allons le faire.
Et oui, donc Star Trek, c'est quelque chose qui a du vécu. C'est sûr, certain, j'aurais pu vous sortir des qui a créé, qui sont les acteurs. Mais quand j'ai commencé à monter la chronique, je me suis dit, ça sert à quoi? C'est-tu vraiment intéressant? Ça amène-tu quelque chose pour apprécier le film? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire, dans le fond? C'est mes commentaires. Qu'est-ce que moi, j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vu en écoutant le film? Première des choses, je suis un gros fan de Star Trek. Honnêtement, sur toutes les séries...
Toutes les séries, là, peu importe laquelle.
Toutes les séries, j'ai peut-être un 5% d'épisodes que j'ai jamais écouté parce que ça n'a pas donné que je puisse les écouter.
5% seulement.
Et ça, j'inclus les Star Trek Voyager, Enterprise, Deep Space Nine, Next Generation, les vieux Star Trek. Donc, j'en ai écouté plus les films. Donc, je suis un amateur, je connais pas tout, mais on pourrait dire que je suis pas dans le top des geeks là-dedans, là, mais je suis au-dessus de la moyenne.
Ouais, tu sais pas comment parler Klingon.
Non, mais je comprends quelques mots.
Quand même.
C'est quand même déjà un bon début. Au niveau du film, la première des choses, c'est un film qui s'adresse à tous. Qu'on soit un amateur de Star Trek ou qu'on ne soit pas, la seule chose qu'il faut aimer, c'est la science-fiction des effets spéciaux. On n'est pas obligé d'avoir plus que ça pour apprécier le film. Connaître déjà de base les personnages, l'histoire, c'est un plus, mais c'est pas nécessaire. C'est un point qui est très, très important par rapport au film. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que comparé à les autres films avant, à les séries, ça n'a pas l'air neuf. On a l'impression que les effets spéciaux ont été montés pour que ça ressemble à quelque chose de réel. Donc, les bâtisses, oui, ça a l'air futuristique un peu, mais on dirait, on voit de la roche. On voit pas genre un plastique blanc lustré qui a aucun défaut.
Même est-ce chose avec les vaisseaux. Est-ce qu'ils ont abusé du CGI, là, comme dans Star Wars? C'est-à-dire de
non.
Il y en a, mais c'est pas abusif, je crois.
Je pense que c'est mieux fait hein, que les Star Wars. Les commentaires que j'ai eu des gens, là, c'est vraiment, ils se retrouvaient beaucoup plus dans ce film-là que justement dans Star Wars. Je sais pas ce que t'en as passé, Guillaume.
Ben, effectivement, ils ont pas mis des effets spéciaux pour mettre des effets spéciaux. Je crois, personnellement, il y a un bout où est-ce que j'ai fait un peu... Je suis pas sûr pourquoi ils l'ont mis là, justement avec une créature qui court après le Captain Kirk.
Sur la planète de neige.
Sur la planète
ouais,
de neige.
Oui, j'étais un peu à côté de ça, moi aussi.
Mais à part ce bout-là, que j'ai trouvé qu'il y a une petite longueur, le film, honnêtement, côté effets spéciaux, on s'y croit. On a l'impression qu'on est dedans. Quand les choses explosent, ça a l'air vrai. Les vaisseaux, on a l'impression que c'est dans... Comme un bateau de nos jours, tu sais, on te promène à l'intérieur, tu as l'impression que tu vois des tuyaux, tu vois des choses. C'est pas juste tout beau, tout clean. On a l'impression de vivre dans quelque chose. Bon, c'est sûr, certains, il y en a qui vont dire, ils ont changé l'histoire. C'est sûr que les vieux de la vieille qui ont déjà connu Star Trek vont dire, mais pourquoi que j'irais voir ce film-là? Ils changent l'histoire. Mais première des choses, sans trop dévoiler, il y a une histoire de voyage dans le temps et ça crée un univers parallèle. Donc, oui, ils reprennent les personnages. Ils ont des modifications, mais les personnages sont là, la base est là, mais ils les emmènent dans une autre direction. Okay. Et c'est quelque chose que je trouve qui est très intéressant.
Oui, puis il y a quand même un bon respect parce que je trouve qu'ils ont fait un bel effort pour réintégrer tout ça en respectant l'ancien. C'est ça qui est bien fait.
Non, effectivement, tous les personnages, le seul que j'ai trouvé qui ont moins bien rentré, intégré dans l'histoire, c'était Scotty, justement, qui se trouvait sur la planète de glace. Mais tous les autres, j'ai trouvé qu'ils ont bien rentré. La façon qu'on les rencontre, qu'on les croise, il y a des personnages qui se connaissent dans cet univers-là qu'avant, c'était pas connu de la même façon. Je crois honnêtement qu'ils ont bien réussi à amener le tout ensemble. Une autre chose qui est intéressante à savoir par rapport de ce film-là, il va avoir une suite. Donc, il est déjà prévu pour les gens qui sont intéressés dans le futur d'aller voir la suite. Et je vous suggère premièrement d'aller voir le premier, même si ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Je crois que c'est un film, justement, dû au fait qu'on n'est pas obligé de le connaître, qui attire le plus gros pourcentage de la population pour aller voir les films.
Moi, j'avais suivi la série Next Generation alors que j'étais dans une autre ville qu'ici. J'écoutais de la télévision en anglais. Et bien, vraiment, parce qu'au niveau Star Trek, ce qui est vraiment l'original, là, aucune connaissance. Là, moi, je connaissais les noms William Shatner et Leonard Nimoy, mais c'était seulement ça. Et vraiment, j'ai bien aimé le film, malgré le fait que j'ai pu faire quelques faux liens. Peut-être parce que je trouve justement Star Wars, quelques faux liens, des mauvais liens avec Star Wars. Je trouvais que le film ressemblait à certaines, à certains points à la parodie de Spaceballs qui avait été faite, et à d'autres points, justement, je revoyais quelques scènes de l'épisode 4, par exemple, puis de l'épisode 5 de Star Wars. Mais bon, ça doit être mon côté un peu trop Star Wars qui a fait que j'ai revu ça. Mais ça reste quand même un excellent film là, au niveau des films qui vont sortir cet été, là. Très bon.
Effectivement, c'est un film que beaucoup de gens avaient des attentes. Donc, il y a des gens qui allaient voir ce film-là en s'attendant à quelque chose, ou en bon, ça va être une copie, ça va être une parodie. Mais faites-vous votre propre idée. Allez-y le voir, ça vaut la peine.
Excellent. Bien, merci beaucoup, Guillaume. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission aujourd'hui. Donc, le temps de remercier Nicolas Joltoc, qui était avec nous en direct de Montréal. Également, Chantal Campagna et Caroline Maltais, la nouvelle championne des Colons de Catane. Merci à Mathieu Place d'être passé ici à l'émission. Hey. Merci à Christian Lacroix. Bien sûr. Et François G. Couillard, qui était également à l'émission. Et Guillaume Forand à la console. Merci beaucoup.
Vincent.
Et ça me fait plaisir. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns in the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night. We turn on the black light. Let the dungeons...